Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le 393e épisode du Rendez-vous Tech. Nous sommes en février et non, nous sommes en mars 2021. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses incroyables, des non-fungible tokens. Ça a l'air barbare comme ça, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant, vraiment. On a aussi des vrais deepfakes de faux Tom Cruise. On a des super follows sur Twitter que Corben est prêt à accepter dans son cœur. Et tout ça vous est amené par les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon, notamment G. Platray, Pierre Atman, Matt Mur, Mikawel, Mathis Dupuis, Grégos Winus et Raph, pas Raphaël, pas Rafi, pas Rafou, Raph, qui est le producteur de cet épisode, qui vous l'amène sur un plateau, comme les autres patriotes que j'ai cités. Merci à eux de faire en sorte que cette émission peut exister, puisse exister même. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir dans cette émission le chef de l'Internet. Comment ça va, Corben ?
Bah écoute, ça va, la forme, écoute, voilà, profite du jardin, les travaux, la vie, quoi. Moins de temps sur l'ordi, j'avoue, en ce moment.
J'avoue que je suis extrêmement fier que tu réserves le peu de temps que tu passes sur l'ordi à le passer avec nous, parce que c'est le vrai, chef de vrai. L'Internet, quand même. Tu sais, quand t'es devenu le chef de l'Internet, c'était il y a quelques années.
Oui.
À l'époque, Internet, c'était plein d'espoir, de beauté, de bonheur. Aujourd'hui, il y a quand même de la toxicité, des fake news. Qu'est-ce qui s'est... Moi, j'aurais presque tendance à me demander si le changement n'a pas commencé quand t'es devenu le chef de l'Internet. Moi, je trouve ça suspect.
Moi, c'est...
Écoute, c'est pas ce que je dis, mais je pense qu'on est en droit de se poser la question.
Moi, je pense que tout ça est à cause de Free qui a proposé de l'Internet pas cher. Tout le monde a pu s'équiper et du coup, c'est devenu le bordel.
Rendons l'Internet aux riches. Qu'est-ce
non,
que
pas
c'est
aux riches, mais aux geeks.
Ah, aux geeks, d'accord. Ok, bon, très bien. Non, parce que c'est vrai qu'on a commencé à voir un peu n'importe qui sur Internet ces derniers temps. Il faudrait un processus de sélection. Peut-être qu'on pourrait créer un board, un petit peu comme le oversight board de Facebook, pour décider qui a droit à Internet ou pas.
Il y a un permis Internet, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un permis Internet, il y a bientôt un pass sanitaire, pourquoi pas un pass Internet hein.
Écoute, moi ça me paraît être une bonne idée, je vous propose qu'on lance cette suggestion au gouvernement de l'Union européenne et puis on verra ce qu'il en ressort. En attendant, nous allons donc vous parler de NFT, de Non-Fungible Tokens, et qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un petit peu compliqué, mais c'est un sujet qui est en ébullition depuis quelques semaines, je dirais. Et je crois qu'il est temps qu'on en parle. Il était à la périphérie des sujets qu'on pouvait couvrir dans l'émission depuis quelques temps. Et ça fait partie de l'agglomération blockchain qu'on veut évoquer, blockchain et crypto-monnaie, qu'on veut évoquer un petit peu plus sérieusement dans quelques semaines. Je vous ai dit que je prépare un épisode spécial sur le sujet et on le fera dans quelques semaines pour couvrir d'autres sujets, différents sujets qui ont attrait à la blockchain et aux crypto-monnaies spécifiquement. Donc, on fera un épisode spécial là-dessus. Mais les NFT, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être traité maintenant et on va le faire. Qu'est-ce qu'un NFT ? Je ne vais pas demander à Corben de l'expliquer parce que c'est vraiment la question piège. C'est difficile à comprendre, mais donc c'est l'une de ses missions compliqués que je m'impose à moi-même et qui font que l'émission, le Rendez-vous Tech, est intéressante quand je réussis ma mission. Vous me direz en commentaire.
Le challenge.
Ouais, c'est un petit challenge, mais c'est vraiment ce qui fait que l'émission a une valeur, je pense, pour les auditeurs, au-delà du plaisir de nous avoir dans leurs oreilles. Les NFT, c'est l'acronyme de donc Non-Fungible Token. Et pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il faut comprendre ce que veut dire fungible. Ça, en français, c'est en anglais aussi, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, hein, mais en français, c'est fongible ou interchangeables. Donc, c'est des tokens, des éléments non interchangeables, des jetons non interchangeables qu'on utilise sur la blockchain. Et non interchangeable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des trucs interchangeables au sens où on peut l'échanger contre de l'argent. C'est que ça n'est, c'est des éléments uniques, en fait, qui sont pas sécables, qui sont spécifiques et qui n'ont du coup pas une valeur prédéterminée en monnaie. Par exemple, un euro, eh ben, il est identique à un autre euro. Alors qu'un tableau de, je sais pas, un tableau de monnaie, ben, il n'est pas identique à un autre tableau ou à une voiture ou même à un billet. C'est-à-dire que c'est un objet unique, c'est un objet spécifique, unique et qui peut donc être, qui peut avoir une valeur qui lui est attribuée. Un euro, c'est un objet qui est fongible, qui est interchangeable. Un dollar, c'est un objet qui est interchangeable. Un bitcoin, c'est un objet qui est interchangeable. Mais un objet non interchangeable, c'est une... on parle généralement d'œuvre. Et les non-fungible tokens, c'est des jetons attachés à la blockchain qui sont associés ou qui désignent ou qui représentent un objet non interchangeable. Et du coup, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une propriété d'un objet qui est assigné à une personne ou à plusieurs personnes, mais enfin qui est assigné de manière unique. Le premier exemple qu'on avait eu il y a, c'était déjà il y a quelques années, je crois que c'était sur la blockchain Ethereum, c'était les CryptoKitties. Je me trompe pas, hein, c'était sur Ethereum.
Ouais, il y avait les. Ouais, c'était ça, c'était sur Ethereum et ils avaient leur ADN en fait et tu pouvais faire des bébés chats et ils avaient chacun leur ADN, etc.
C'est ça. En gros, c'était un jeu vidéo dans lequel on pouvait acheter, mais vraiment avec du vrai argent, acheter des petits chats numériques qu'on pouvait ensuite croiser entre eux, avoir des bébés et l'ADN se mélanger et chacun pouvait avoir une rareté, il y avait des pédigrés, il y avait des trucs comme ça, mais il y avait surtout une vraie propriété de chacun des chats du système, de chacun des chats du jeu. Et cette propriété était attribuée avec des non-fungible tokens. En gros, c'est une preuve de propriété qui peut être assignée, achetée, revendue, etc. Ça veut dire que si on a un non-fungible token d'un objet numérique, eh ben on en a vraiment la propriété, on peut en faire ce qu'on veut. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut, il y a des limites, on va le voir dans une seconde, mais en tout cas, on en a la propriété assignée. Et c'est pour ça qu'un token non interchangeable, non fongible, est très différent d'un token qui représente un bitcoin, par exemple. Parce que comme je le disais tout à l'heure, bon, bah, j'ai un bitcoin, c'est le même que tout autre bitcoin, on sait quelle valeur il a une valeur d'un bitcoin, et voilà, c'est terminé. Et c'est échangeable, il n'y a rien qui le différencie. Et l'une des raisons pour laquelle les NFT est en train de devenir assez... Enfin, le terme et l'idée des NFT est en train de gagner en popularité, l'une des raisons, c'est le site NBA Top Shot. C'est quoi le NBA Top Shot? NBA Top Shot, c'est la NBA, hein, donc la National Basketball Association, donc les jeux, la ligue de basket américaine, qui a donné une licence à un site qui s'appelle NBA Top Shot, qui permet d'acheter et de vendre des moments des matchs de la NBA. C'est-à-dire que vous avez des sortes de petits extraits des matchs de la NBA, genre les plus beaux dunks, les moments historiques de tel ou tel joueur, etc., qui peuvent s'acheter et s'échanger comme des cartes à collectionner. Et en fait, ce que ça représente, NBA Top Shot, c'est des cartes à collectionner numériques. Et on peut acheter des packs, s'échanger des packs. Il y en a des plus ou moins rares. Il y a des éléments, j'imagine, qui se retrouvent plusieurs fois dans les collections des gens et qui donc sont un petit peu moins rares et qui valent un petit peu moins d'argent. Mais il y en a aussi qui sont très, très rares, peut-être même uniques, qui peuvent s'échanger pour beaucoup, beaucoup d'argent. Et tout ça est, en fait... powered et propulsé par des non-fungible tokens, ce qui fait que la propriété numérique devient un petit peu inaliénable. C'est évidemment très sécurisé quand on utilise de la blockchain, c'est décentralisé, et vous pouvez être sûr que votre objet numérique vous appartient sur le papier et qu'il est, entre guillemets, à vous. Et là, on atteint un petit peu les limites de cette idée de propriété dans le numérique, en tout cas pour ce type d'objets que sont des vidéos ou des images. Parce qu'évidemment, n'importe qui peut reproduire ça facilement. Alors, oui ou non, c'est du piratage. C'est pas que vous allez dire ce moment de la NBA, il est à moi et donc plus personne ne peut le voir. Il est quand même disponible, il reste disponible un petit peu partout. Mais dans votre cœur, il vous appartient. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne le truc sur NBA Top Shot. Bien sûr, on peut imaginer toutes sortes de systèmes différents, mais moi, ce à quoi ça me fait penser, le système de NBA Top Shot, qui représente quelque chose comme 270 millions de dollars d'échanges. Le site existe depuis, je ne sais pas, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, mais on est dans cet ordre d'idée. Et ils ont eu, sur les derniers mois, entre 250 et 300 millions de dollars de ventes et d'échanges sur le site. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Moi, ce à quoi ça me fait penser, vous vous souvenez de l'affaire Thomas Crown, le film ?
Non.
Tu t'en souviens
non.
pas ? Dans l'affaire non. Thomas Crown, c'est Thomas Crown qui va dans un musée, qui est une sorte de gentleman cambrioleur, qui va dans un musée voler un tableau. Et on se rend compte, désolé pour le spoiler, le film est sympa, mais je vais vous donner le spoiler parce que c'est en rapport avec ça. On se rend compte qu'il l'avait volé au vu et au su de tous et personne n'arrive à retrouver le tableau. Pendant des mois, tout le monde le cherche et personne n'arrive à le retrouver. Et au final, le voleur, on ne sait pas qui il est, il dit « bah, je vais le rendre, je vais le ramener ». Et tout le monde se dit « mais comment il va le rendre ? Comment c'est possible ?» Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il déclenche les alarmes à incendie et donc l'arrosage.
Ouais, l'arrosage automatique.
Voilà, l'arrosage automatique qui va effacer le tableau qu'il avait avec lequel il avait remplacé. En fait, le tableau d'origine était depuis le début sous le faux qu'il avait ajouté. Qu'il avait remis. Et il était toujours dans le musée. Donc le seul plaisir qu'avait Thomas Crown, c'est de se dire bah, c'est moi qui, entre guillemets, l'avais, mais il était toujours là. Il était toujours au sein du musée, mais il disait bah, c'est un petit peu moi qui l'ai parce que je l'ai volé, et même si les gens le voient, tu vois, les gens le voient pas, mais il y est toujours. Là, c'est un peu ça. C'est le plaisir de se dire cet extrait de la NBA, il est à moi. Entre guillemets. C'est moi qui le possède. Mais tu peux rien en faire. Enfin, oui, tu peux peut-être le revendre, mais c'est dans une collection, une artificialisation qui est... Une rarification qui est totalement artificielle. C'est vraiment parce que le système a décidé qu'il n'y aurait que 2 versions ou 3 versions de tel ou tel moment. Donc, c'est un truc vraiment particulier et c'est powered par les NFT. Est-ce que ça te parle, les NFT, Corben ?
Ouais, bah du coup ça me parle, mais après c'est assez psychologique, quoi, parce que tu vois, quand on parle d'une œuvre, ça peut être, c'est quelque chose de matériel en général, donc ça, c'est un tableau par exemple, et même si tout le monde a la copie de la Joconde téléchargeable sur Internet, même si tu l'as, t'as une toile, tu l'as fait imprimer sur une toile ou je sais pas quoi, t'auras pas la vraie Joconde, alors que là, c'est quand même propriétaire d'un truc qui est juste une vidéo ou un moment. C'est très virtuel. Après, je comprends qu'il y ait des collectionneurs, mais c'est très, très virtuel. Et moi, je suis pas trop là-dedans, tu vois. Autant posséder un vrai tableau, ça me fait kiffer, je trouve ça cool. Autant un moment, machin. Bon, après, c'est vendu officiellement par la NBA, hein, c'est ça. Donc, bon,
c'est en partenariat avec la NBA, effectivement. Mais, ouais, mais oui, tu
l'as... Ça a quand même une valeur. Disons que l'autorité au-dessus, c'est la NBA. Elle te vend ce moment-là. Officiellement, t'en es propriétaire. Mais tu vois, c'est un peu comme acheter une parcelle sur la Lune, tu vois. C'est
un peu comme nommer une étoile en quelque sorte. Encore que même ça, ouais, ça a une... Ça, ouais. C'est ce que disent les gens dans la chatroom. Salut à la chatroom d'ailleurs. C'est un peu comme nommer une étoile. Bah, tu l'as pas... Enfin, même là, t'as quand même donné le nom. Si un jour, on se rend compte dans 200 ans qu'il y a autour de cette étoile une planète, tu sais, dans la Goldilocks Zone, une Terre 2, ouais, ouais. Et bah, t'auras quand même... Là, c'est... Oui, tu possèdes ce NBA Top Shot, cet extrait... Mais c'est vraiment dans le contexte de cette application, de cette collection de Top Shot. Parce que si demain, ils font un Top Shot 2, ou c'est pas un truc que tu possèdes à jamais dans tous les médias, je suis sûr que
voilà,
tu vas.
Ouais.
Mais à vrai dire, ces NFT, ça va au-delà de cette simple idée de Top Shot. Tu parlais d'art. Grimes, qui est une artiste qui est assez connue, qui est la copine de Elon Musk. C'est comme ça que je la connais. Moi, je ne la connaissais pas pour son art. Mais elle a vendu pour 6 millions d'œuvres d'art pour une collection, 5,8 millions, en NFT. Elle les a vendues en NFT. Et c'est pas la seule, il y a, c'est un petit peu obscur, mais tu les vends en NFT. Alors, ça peut effectivement être attaché à une œuvre physique. On peut comme ça, avec la blockchain, suivre et identifier les chaînes de possession de plein d'objets différents, que ça soit... c'est comme tout ce qu'on fait avec la blockchain, hein, mais tu peux dire suivre pour authentifier des cartes à collectionner rares, des autographes, des... comme ça, au moins, tu as une indication de si c'est un authentique, si c'est un vrai ou pas, ou si c'est une, quelqu'un... Tu vois, au moins, tu peux suivre les trucs, mais c'est, ça peut être pareil avec les œuvres d'art. Il y a d'ailleurs Nyan Cat qui s'est vendu en NFT. Vous savez Nyan Cat, la chanson avec chat, la vidéo, ouais. Le chat. Nyan, 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 nyan. Bon, bref, c'est Nyan Cat. Eh bien, il faut que les gens comprennent, hein, tu vois. Il s'est vendu pour 600 000 dollars. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant Nyan Cat n'est plus disponible sur YouTube? Je pense que Nyan Cat, si tu fais YouTube Nyan Cat, je pense qu'il y est toujours. Mais c'est l'idée, oui, voilà, il y est toujours, version 10 heures, version 3 minutes. Bon, il y est toujours.
Bah après, c'est quelqu'un qui dépense autant d'argent dans un moment comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, pas qu'est-ce qu'il fait, mais... Qu'est-ce que ça symbolise pour lui, tu vois? Il se dit, je suis propriétaire de ce moment-là où il s'est passé un truc au basket, machin, il y a un panier par je sais pas qui.
C'est pour ça que je parle de Thomas Crown. C'est juste le plaisir de savoir qu'il est à toi. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Après, on peut étendre cette idée à, en particulier dans le domaine des jeux vidéo, on peut imaginer des jeux où on a vraiment la possession d'objets en jeu. Il y a plein de jeux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de jeux où tu peux dire, tu as les objets en jeu, tu peux les revendre, tu peux les licencier, tu vois, enfin donner des licences pour l'utilisation. Il y a plein de possibilités là-dedans, dans des mondes virtuels, en réalité virtuelle, etc. Il y a plein de possibilités. C'est simplement la création de la vraie propriété numérique, en fait. C'est ça, le truc. Ouais. Et elle existait déjà, la propriété numérique, mais étant donné que les clés étaient dans les mains, quand on parle du jeu vidéo, dans les mains des développeurs et des éditeurs, et qu'ils ne voulaient pas s'engager, tu vois, sur, je ne sais pas moi, les 150 prochaines années à dire, bah, tu as le droit de posséder tel objet en jeu, ils disaient, bon, bah, on vous donne une licence pour l'utiliser, mais à un moment, si on veut changer les termes du contrat, on peut. Alors que là, si tu as la possession... Techniquement, sur le papier, c'est comme si tu avais signé un contrat, c'est à moi ce truc. Après, il peut se passer des catastrophes naturelles numériques qui font que la blockchain s'effondre ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais sur le papier, tu as la propriété du truc et le truc est à toi. Bon.
Le seul truc qui fait que ça marche, c'est juste l'intérêt des gens, en fait. Si un jour tout le monde se désintéresse de ce truc, ça vaudra plus rien. Mais
bah oui,
c'est
mais pareil. Comme partout.
Donc,
comme tant pour mieux. L'art, moi, comme pour les cartes à collectionner, comme pour, tu vois, même un tableau.
Ouais, le seul truc qui fait
que
ça a de la valeur,
c'est que quelqu'un le monde le veut. Après, la Joconde, si demain tout le monde décide que ça n'a aucun intérêt, bah, elle aura plus de valeur.
C'est peu probable. Il y a un côté historique. Alors que là, en fait, tu possèdes même pas le vrai objet. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas posséder ce moment. T'étais même pas là. Enfin, tu vois.
Qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement de chanson, par exemple? Si tu as
un enregistrement de chanson, c'est encore différent. Si t'as
la cassette, tu veux dire?
Si t'as la cassette qui a été utilisée, machin, pour l'enregistrement initial, tu vois, c'est une valeur. Après, si c'est une copie d'une copie d'une copie. Bon, bah, tu peux te dire, c'est peut-être les. Après, tu peux toujours aller plus loin. Hein. Tu peux te dire, c'est les 10 premières copies ou quand tu fais. Tu sais, quand tu as une reproduction et qu'elle est numérotée, etc. C'est ce genre de truc. Mais.
Disons que les NFT, c'est la possibilité d'insérer l'idée de propriété, de vraie propriété dans le numérique et dans le décentralisé de la blockchain. Et après, tu reproduis la valeur dans le contexte dans lequel tu produis ces NFT. En l'occurrence, quand on parle de NBA Top Shot, c'est dans le contexte de cette collection-là qui est sanctionnée par la NBA, qui va dire, bon, bah, pour les X prochaines années, c'est Top Shot qui a le droit de faire... j'imagine qu'ils ont signé des contrats pour dire on a le droit exclusif de produire ces moments. Et oui, et tu as raison, c'est plus qu'ailleurs la valeur qu'on attribue à quelque chose qui lui donne sa valeur, encore plus que pour le reste, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'objet physique qui y correspond, quoi.
Le seul intérêt que je vois, c'est si jamais il y a des échanges ou tu vois, des tractations. C'est-à-dire que voilà, le mec a acheté tel moment et puis il en veut deux autres, alors il peut l'échanger, tu vois. Enfin, Tu vois, que ça soit une espèce de jeu de cartes un peu, tu vois, où là, tu as du plaisir.
Non, mais c'est exactement comme ça, oui.
Tu vois, avec ça, quoi. Mais si c'est juste garder le truc, dire je suis proprio, faire imprimer le petit certificat, le mettre chez toi, je trouve ça un peu plus limité,
tu vois. Ça, après, c'est chacun qui a son, qui en retire son plaisir, tu vois, c'est des trucs personnels.
Ouais, ouais.
Je crois qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus dans les collections, dans les figurines, dans les... On en a quand même ici aussi, hein, les cartes Magic ou Pokémon, les gens les achètent aussi pour faire leur collection, c'est pas forcément pour jouer avec, tu vois. Et Guillaume dit un truc dans la chatroom auquel je pensais en préparant l'émission, je voulais l'évoquer à un moment. Tu dis oui, c'est que de la valeur. Imagine demain, je me mets... D'ailleurs, s'il y a un développeur qui travaille sur une blockchain qui veut me travailler avec moi sur ça, imagine demain, je me mets à vendre des NFT, des épisodes du Rendez-vous Tech. Imagine. Ça, bon, je me doute bien que ça n'aura pas beaucoup de valeur. Mais dis-toi, bon, bah, pour 2 euros, tu peux dire que tu es le possesseur officiel de l'épisode de l'épisode, je sais plus, bah, l'épisode peu, 100, tu vois.
C'est un peu ce que tu fais déjà, là. C'est-à-dire, tu dis Raph est le producteur de cet épisode, et c'est marqué dans, c'est inscrit dans le marbre, puisque c'est dans l'enregistrement de l'épisode.
Un petit peu.
Et voilà. Alors après, ouais, tu pourrais le faire de manière rétroactive.
Et dire que les épisodes sont, tu vois, ça changerait rien parce que je vais pas retirer les épisodes des archives. C'est juste que, et c'est vrai que d'une certaine manière, les producteurs sont un petit peu, tu vois, ils ont leur nom inscrit dans le marbre. Mais c'est pour ça que je dis, si on faisait des NFT du Rendez-vous Tech, il y aurait, je suis sûr qu'il y aurait des gens qui diraient, allez, je mets un euro, quoi, tu vois. Et bah, c'est juste pour le plaisir. Et par exemple, tu pourrais te faire la collection de tous les épisodes où Corben apparaît. Tu as la collection de tous les épisodes où on parle de Bitcoin, une sorte de méta, tu as un truc sur Bitcoin, tu as la collection des trucs, je ne sais pas, la première fois que je dis l'avocat du diable, ça c'est un épisode qui vaut au moins le double de la valeur des épisodes classiques, c'est au moins 2 euros, tu vois. Je sais pas.
Ouais,
c'est...
peut-être pour les gens de ta famille, tu vois, qui suivent ça de près, mais sinon, je suis pas sûr.
Tu crois pas ? Demandons à la chatroom, tiens, mettons Twitch à contribution. Sérieusement, je pose la question sincèrement. Est-ce que pour le premier épisode où je dis vraiment, on fait la mode de l'avocat du diable, est-ce que certains d'entre vous seraient prêts à mettre 1 euro pour dire c'est moi qui le possède, même si concrètement ça change absolument rien dans la pratique, vous allez me dire, on va continuer. Mais bon, donc voilà pour l'histoire des NFT. J'espère que vous aurez compris. Bon, Guillaume me dit sincèrement, il n'y a aucune chance que j'achète un NFT pour bon. Merci, hein, c'est sympa le soutien. enfin, le soutien, non, la valeur que vous attribuez. Bon. Peut-être que je me trompe sur la valeur qu'ont les émissions. Mais c'est un sujet qui est intéressant parce que ça va au-delà de... Mais on parle sérieusement, hein. Nelrod dit, moi, j'achète direct des NFT French Spin. Merci.
Moi, je pense que tu devrais vendre ton corps en NFT. Moi, j'achète ton gros orteil, ton sourcil droit. Et tu vois, comme ça, t'as de la valeur, tu vois.
Pas bête. Bon, bah Patrick en NFT, ça arrivera peut-être dans quelques mois. On va voir avec un développeur ce qu'on peut créer. alors, voilà pour cette idée qui est intéressante, je trouve. Et surtout, ça va au-delà de tout ce qu'on a discuté ici, parce que ce n'est pas juste l'idée des NBA Tough Shot et ce genre de trucs. C'est l'idée d'avoir une propriété numérique certifié par blockchain. Et ça, c'est une idée qui est vraiment intéressante. En tout cas, maintenant, vous saurez ce que c'est que les NFT, j'espère, et je pense que vous allez en entendre parler de plus en plus dans les semaines et les mois à venir.
Ah, mais je pense que ça va se développer parce que n'importe quel artiste, créateur, etc., peut quelque part refabriquer de la valeur sur ses créations de manière totalement virtuelle sans remettre de l'énergie dedans. Et j'imagine que plus tard, tu auras des artistes qui vont dire telle chanson qui est un tube planétaire, je vends le NFT et c'est vous les proprios, entre guillemets.
C'est ça. Même si ça reste, parce qu'ils vont jamais ou rarement dire, personne d'autre peut l'écouter. Mais je pense vraiment qu'il y a une opportunité pour l'artiste de vendre, parce que tout ce qu'on dit sur le numérique depuis, et ce qui se concrétise depuis des années et des années, c'est que justement la création pouvant être dupliquée à l'infini, n'a plus de valeur en tant qu'objet unique. Ben là, c'est exactement l'opposé qui est en train de se concrétiser. On peut recréer de l'unicité aux objets numériques, ce qui leur redonne de la valeur. Alors, pas pour tous, pas tout le temps, c'est une option en plus, mais je suis sûr qu'il y a des artistes qui vont faire ça, et de grands artistes peut-être, et aussi de petits artistes pour financer leur création, justement. C'est vraiment une question, enfin, un sujet sans fin sur ces possibilités, quoi. Donc voilà, et on pourrait évoquer, effectivement, on en parlera avec les super follows tout à l'heure de OnlyFans et de tout ce genre de trucs, mais les possibilités sont infinies. Parlons rapidement des deepfakes. Des deepfakes et de la concrétisation de, comment dire, des premières deepfakes qui sont vraiment, vraiment pas discernables, à moins qu'on fasse très attention. On va le dire comme ça. Les premiers deepfakes qui sont convaincants. Tu me parlais, Corben, de ton expérience avec Deep Tom Cruise il y a quelques jours. Tu peux raconter ça?
Bah, j'étais sur TikTok comme 90% de mon temps en ce moment et je tombe sur Tom Cruise qui fait une partie de golf et bon, j'ai pas regardé jusqu'au bout, je me suis dit il fait quoi ce con et puis j'ai zappé quoi, tu vois, j'en avais rien à cirer mais j'ai pas fait gaffe en fait que c'est, j'ai pas vu que c'était un deepfake et là en préparant l'émission avec toi, j'ai regardé toutes les vidéos et j'étais ce genre de personne qui se disait ouais, moi les deepfakes je les vois. C'est bon, je les vois arrêter, ça se voit, quoi. Et là, c'est la première fois de ma vie où je vois un deepfake et je vois pas la différence. Et je suis traumatisé, là.
Alors, on peut vous montrer celui qui a le plus fait de bruit. Bah, on va avoir la voix en même temps. On ne sait pas exactement qui est derrière le truc, mais effectivement, c'est un compte TikTok qui s'appelle Deep Tom Cruise.
Ça se trouve, c'est vraiment Tom Cruise.
Ça se trouve, c'est... ça serait un coup de pub incroyable.
Mais
ça serait très fort. Mais je crois pas. Et là, c'est celui où il fait un tour de magie. Je crois que c'est un imitateur qui imite sa voix. On va vous laisse écouter.
It's all the real thing.
Et donc, on va le remettre un petit peu juste pour que les gens entendent bien.
I'm gonna show you some magic. The real thing. I mean, it's all.
Et il fait disparaître une pièce.
Thing.
Alors, en tant que tel, ça n'a pas grand intérêt, hein, en tant que simple tour de magie de Tom Cruise. Sauf que c'est pas lui, et on s'en est pas vraiment aperçu. Sauf que le nom, c'est Deep Tom Cruise, donc on le savait bien. Et c'est la première fois qu'on a vraiment un deepfake qui, si on fait pas super méga attention, si on regarde bien, on voit bien des petites imperfections ici ou là. Mais ça passe vraiment. J'en parle parce qu'il y a aussi eu une autre histoire qui a à voir avec les deepfakes. C'est MyHeritage, qui est une société qui a utilisé les deepfakes pour mapper des mouvements du visage de quelqu'un qui fait juste des mouvements, genre on regarde à droite, à gauche, etc., à des photos très anciennes. En gros, des photos de vos arrière-grands-parents ou des photos du début du siècle. Pour ramener à la vie des... Enfin, ramener à la vie... Enfin, créer une vidéo qui est un petit peu comme une live photo d'iPhone pour animer des photos, en fait, un petit peu à la Harry Potter même.
Je l'ai testé hier sur Twitch, et puis j'ai fait un article dessus qui va sortir aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, ou après-demain. Et en fait, j'ai testé avec la célèbre photo de Einstein, Albert Einstein, tu sais, où il tire la langue.
Bien sûr.
Et en fait, bah, il ne rentre pas la langue, là. Donc tu le vois bouger avec sa langue tirée, c'est vraiment trop glauque. Mais ça fait un coup quand même, parce que quand tu admettons, tu mets ton arrière-grand-père, quelqu'un qui est mort quoi, depuis longtemps, ou que même tu n'as jamais connu, et tu le vois bouger comme ça, c'est bizarre quand même. Tu vois, tu as l'impression que tu fais revivre quelqu'un, c'est vraiment un peu bizarre.
Ouais, je suis d'accord, c'est un petit peu étrange. Et quand tu le vois sur des gens que tu ne connais pas, je peux concevoir que c'est juste « Ah bon, ok, c'est intéressant, mais sans plus ». Mais si c'est des gens que tu connais, c'est sur Sakitable, hein, sur MyHeritage, le service en question. Alors, il y a un petit peu d'intelligence artificielle, mais en gros, bon, c'est du deepfake, hein, pour simplifier. Et c'est sur Sakitable et c'est hyper intéressant comme utilisation. Mais encore une fois, c'est des utilisations convaincantes de deepfake, alors qu'il y a quoi ? C'était il y a 2 ans qu'on a commencé à voir les histoires de deepfake, on disait ouais, ça progresse vite quand même, ça va arriver bientôt. Et bah là, on y est, quoi. Donc, et ce qui est marrant, c'est que Microsoft travaille avec un truc qui s'appelle Project Origin. Ils travaillent à un moyen d'identifier et de suivre l'origine et la source des médias numériques. Donc, ça va beaucoup servir, en particulier avec les deepfakes. C'est un système de traçage. Je me demande d'ailleurs s'ils n'utilisent pas la blockchain, mais c'est un système de traçage pour, peut-être que ça sera, ça aidera, c'est pas la, comment dire, le silver bullet, c'est pas le moyen ultime, mais ça aidera à identifier l'origine et la source des vidéos, donc pour savoir aussi quand elles seront, quand elles sont fausses. Donc,
disons que on était déjà submergé de fausses infos, de photos sorties de leur contexte, etc. Là, maintenant, même un discours de quelqu'un de connu, etc. Il faut se méfier, quoi. Enfin, c'est un truc, ça va rentrer dans les mœurs. En fait, tout va être tout le temps remis en cause. Pour tout et n'importe
c'est,
quoi.
C'est ça qui est vraiment dangereux dans ce genre de système, si on devient sérieux deux secondes, au-delà de Tom Cruise qui fait de la magie. Ce qui est vraiment dangereux, en fait, c'est pas qu'on se dit « Ah, ben, on va croire que tel truc est vrai ». C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est pas de se dire « Oh, mon Dieu, regarde, Barack Obama s'est mis de l'héroïne dans les veines, on a la vidéo ». C'est pas ça, évidemment. Mais le problème, c'est que ça met la suspicion partout. Comme ce qu'on a vu avec l'inondation d'informations dans tous les domaines. Le problème, c'est que quand tu as trop d'informations et que tu sais pas ce qui est vrai, eh ben, tu n'as plus le temps de décider « Ah bah oui, je vais essayer de regarder ce qui est vrai ou pas » et de faire l'effort de rechercher ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Tu rejettes juste tout et tu dis « Bon, bah, ça m'emmerde de toute façon. »
Je vais te dire, on saura que c'est devenu mainstream, et retenez bien ça, quand le prochain homme politique ou femme politique prise la main dans le sac sur une connerie, une
sextape,
n'importe quoi, dira, bah, parce qu'il dit c'est un montage, ou tu vois, ou c'est, bah, maintenant ils diront c'est un deepfake.
Ouais, exactement.
Et là, on saura qu'on a basculé.
Tout à fait. Donc voilà pour les deepfakes. Écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler de Patreon. On ne peut pas encore acheter des NFT pour le rendez-vous tech. Ce n'est pas encore possible. Mais ce qui est possible, c'est de soutenir l'émission sur Patreon de manière complètement facile et transparente. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même choisir comment vous allez soutenir l'émission, à quel montant, combien de fois par mois vous allez soutenir un épisode. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et c'est au montant que vous choisissez. Si vous voulez donner un euro plutôt, puisqu'on est en euros maintenant, 1 euro par épisode, bah c'est super, ça fonctionne très bien. Si vous voulez donner un petit peu plus, vous pouvez aussi. Et il y a un truc dont je parle pas souvent, mais qui est vraiment important et dont les gens se rendent peut-être pas compte. Je pense que je vais faire sur le mois de mars, ça va être la campagne du rendez-vous tech et du Patreon en général. C'est le fait que je vais parler un petit peu marketing. Vous savez ce que c'est le churn? Est-ce que tu sais, tu réponds, tu sais ce que c'est le churn, Cormen?
Non.
Le churn, c'est le roulement des personnes qui sont abonnées à un service, par exemple. Et sur Patreon, il y a du churn. C'est-à-dire que les gens ne restent pas abonnés jusqu'à la fin des temps, évidemment. Il y a des gens qui restent abonnés 3 ans, 4 ans, ou ce que c'est. Et puis, il y a des gens qui quittent le service. Et donc, c'est hyper important que de nouvelles personnes participent au service. Parce que sinon, petit à petit, je ne pourrai plus être payé pour faire l'émission. Parce que s'il n'y a pas de nouvelles personnes qui se mettent à soutenir le rendez-vous tech, et au bout d'un moment, le soutien s'amenuise et s'amenuise. Donc, si vous appréciez l'émission, je serai hyper heureux de vous voir vous intéresser à ce Patreon, parce que ça ne survit pas tout seul. Il faut que de nouvelles personnes reviennent pour remplacer les anciennes, parce que sinon, ça devient compliqué. Donc, si vous aimez, évidemment, si vous appréciez pas l'émission, si vous l'écoutez comme ça et vous dites « Bon, tu sais quoi, si l'émission disparaît demain, je m'en fous ». Mais si vous écoutez, que vous appréciez, que vous passez un bon moment et que vous vous dites « si l'émission disparaît demain, ça me ferait un peu chier, ouais, ça m'embêterait, je serais bien prêt à donner 1 euro par épisode pour continuer à l'avoir, peut-être ». Bah, si vous vous dites ça, allez regarder ce qu'il y a du côté de Patreon. C'est sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez voir non seulement les bonus que vous pouvez avoir, comme des contenus supplémentaires, des contenus en avance, les time codes pour l'émission, l'absence de pub totale, y compris cette partie de promo au milieu de l'émission. Mais en plus de ça, vous avez le plaisir de soutenir l'émission parce que vous appréciez ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas encore tout à fait les NFT, mais c'est quand même un moyen hyper sain de soutenir le travail qu'on fait. Donc, si, encore une fois, vous appréciez le rendez-vous tech, je vous encourage à aller voir sur patreon.com/rdvtech. Et je vous en remercie parce qu'effectivement, comme je le disais, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce n'est pas éternel. Les gens ne restent pas abonnés jusqu'à la fin des temps. Donc, si on veut que l'émission continue, il faut que de nouvelles personnes viennent soutenir l'émission. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font, à tous ceux qui le font déjà. Et je vous remercie et j'envoie un grand merci à tous ceux qui décideront peut-être de le faire aujourd'hui ou demain ou en écoutant l'émission.
Puis ça paye mon salaire aussi, c'est bien.
tu sais, c'est marrant, je disais dans mon Made with Patrons, mon post mensuel où j'explique un petit peu ce que je peux faire avec le soutien des Patriotes, que je rémunère les intervenants réguliers qui sont là.
Ah bon ?
Ben, mais oui, je rémunère. Alors, les intervenants réguliers, il y en a généralement un par épisode. Corben, je suis désolé, c'est pas toi qui fais partie de ces intervenants.
Non, mais
dans
moi,
le,
ça
dans
va, t'inquiète.
Mais tu sais, je réussis vraiment à rémunérer. Moi, c'est un truc qui est important pour moi, c'est de rémunérer les gens qui travaillent et qui sont tenus d'être là. Alors, il se trouve que, en l'occurrence, celui qui est tenu d'être là avait un empêchement. Mais les gens qui sont tenus d'être là, qui s'engagent, je veux les rémunérer autant que je peux. Pareil avec les gens qui travaillent avec moi, je suis pas du genre à demander « Ah bah si tu peux me faire ça, allez c'est pas grave, tu vas pas me demander de l'argent, ça va être juste une journée de boulot, c'est bon, et puis c'est parce que t'es sympa, tu m'aimes bien. » Non, moi je marche pas comme ça, j'essaye de payer les gens correctement et pardon ? Oui, je ferai ta pub, c'est ça.
Je ferai ta pub.
je te paye, tu es payé en exposition, tu vois. Non, c'est pas comme ça. Et ça, c'est possible grâce aux personnes qui soutiennent l'émission. Donc, c'est quelque chose de vraiment que je prends au sérieux et qui est rendu possible grâce à vous. Donc, il y a plein de gens, il y a plusieurs personnes, genre une dizaine de personnes que je paye. Alors, c'est pas des gens qui sont employés, hein, je vous rassure, mais des freelances, des gens auxquels j'envoie de l'argent. Ça représente une bonne somme à la fin de l'année. Et c'est quelque chose que je suis très fier de pouvoir faire grâce au soutien des auditeurs et aux moyens de financement que j'ai pour le rendez-vous tech. Donc, bref, bravo. Voilà, c'était un détail, mais c'est important pour moi.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
À propos de financement, tiens, parlons un petit peu de superfollows. Est-ce que tu sais ce que c'est les superfollows, Corben ?
Ouais, j'ai vu de loin, mais j'ai pas creusé plus, donc je veux bien un petit résumé.
Très bien. Eh bien, écoute, je suis là pour ça. Les superfollows, c'est une nouvelle fonctionnalité de Twitter qui devrait arriver, alors on ne sait pas quand exactement, mais ils travaillent dessus. C'est une fonctionnalité qui est en fait un abonnement à des comptes Twitter pour une certaine somme, les détails restent à déterminer, mais on peut imaginer par exemple que pour 5 euros, vous pourrez être abonné à un compte Twitter. Twitter prendra une partie de la somme, bien sûr, prendra sa commission, et vous aurez accès à un flux de tweets privés, peut-être des réunions privées, puisqu'il y a aussi un équivalent de Clubhouse qu'ils sont en train de développer, des rooms, ça s'appelle Twitter Rooms, je crois, donc des discussions audio privées. Vous auriez aussi droit à une newsletter privée. En gros, tout ce que je suis en train de faire avec le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, ça serait intégré en quelque sorte à Twitter pour un certain abonnement. Est-ce que tu serais prêt à suivre des gens, à payer des gens pour avoir des tweets privés, toi, Corben ?
Non, enfin, je vois pas qui je pourrais suivre par des tweets privés là maintenant, mais oui, enfin, pourquoi pas si vraiment
Patrick,
c'est,
évidemment. C'est... Mais plaisanteries sont tellement bonnes, non ?
disons, faudrait que ça m'apporte vraiment un plus, quoi, un gros plus, quoi.
Ouais.
Parce que si c'est juste pour entendre les réflexions de machin de bidule en message privé, c'est pas la, enfin, en truc privé, c'est pas la peine. Si à chaque fois que je dis, tu vois, c'est un peu comme un média, un site en fait. Si c'est un site qui t'apporte quelque chose, t'es prêt à payer l'abonnement, tu vois. Donc, c'est un peu pareil. Mais je sais pas, je trouve ça un peu limité. À mon avis, c'est une réponse à OnlyFans, surtout, pour les gens qui ont une communauté, pour soit s'adresser à un public plus jeune, soit s'adresser à des gens qui veulent des photos peut-être plus osées, voilà. Mais
pour ceux qui ne savent pas, OnlyFans, c'est un système de financement direct qui a beaucoup gagné en popularité depuis le début de la pandémie, notamment parce que l'industrie pornographique s'en est un petit peu emparée et il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs, j'imagine, pornographiques qui utilisent OnlyFans et qui, du coup, donnent du contenu particulier à leur communauté. Mais ce n'est pas que... à la base, ça, c'est une communauté qui existe pour un petit peu tout, j'imagine. Un système qui peut utiliser pour tout. Mais c'est vrai que la communauté des acteurs et actrices pornographiques l'utilise beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils sont connus, en gros. C'est pour ça que quand vous voyez une blague sur deux sur Internet, c'est genre « Ah, OnlyFans, wink wink !» Tu vois, c'est un peu...
Ouais. Ça sera pour les acteurs porno ou pour les super gourous, mais voilà.
Bah, tu sais, moi... Je suis pas sûr, parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut créer son propre contenu, en fait. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à créer du contenu à valeur ajoutée sur Twitter, parce qu'il n'y avait pas de moyen de monétiser. Et qu'on le veuille ou non, quand tu bosses, tu as envie d'être payé. Et donc, les gens n'avaient pas vraiment intérêt à créer du contenu vraiment à forte valeur ajoutée sur Twitter, parce que ça n'allait rien leur rapporter. S'ils ont tout à coup un moyen de monétiser ça, je me demande s'il ne peut pas y avoir des journalistes, des analystes. Il y a beaucoup de gens qui, dans l'industrie du jeu vidéo en tout cas, des analystes qui font, qui donnent des détails hyper intéressants sur l'industrie du jeu vidéo, dont certains pourraient intéresser par une version payante plus poussée. On peut imaginer que le Wall Street Journal, par exemple, qui est très très cher, puisse donner une version un petit peu moins chère de ses informations sur Twitter pour certaines personnes. Je me demande, des journalistes qui peuvent avoir des analyses vraiment intéressantes ou des reportages intéressants, qui pourrait tout à coup, au lieu d'utiliser, ou en plus, en parallèle d'avoir des newsletters, et d'ailleurs Twitter, comme on le disait, a racheté, je ne sais plus comment s'appelle la boîte qu'ils ont racheté, de newsletters pour proposer ce genre de service aussi, si ça te fait un écosystème de contenu vaste...
Ça va marcher, tu vois, par exemple, je vois, en fait, ce qui est bien avec Twitter, contrairement à OnlyFans, c'est ce côté immédiat. Donc, en fait, je pense que ça va marcher sur des contenus... dont tu as besoin de prendre connaissance tout de suite. Par exemple, un investissement dans des actions en blockchain ou ce que tu veux, là, en crypto-monnaie. S'il y a un mec qui s'amuse à faire des conseils, enfin, en tout cas, dire regardez, ça monte, ça baisse, moi j'achète ça, si ça, et que les gens le suivent, il peut carrément le monétiser en super follow, hein, ça c'est sûr. Parce que tu as le truc immédiatement, il faut réagir vite. T'es dans l'élite, entre guillemets, puisque tu as les infos avant les autres, parce que tu es dans le truc. Bon, pourquoi pas, tu vois, mais après, sur de l'info, on va dire, traditionnelle, je vois pas l'intérêt, quoi, la plus-value.
Non,
ça vient. Sur des choses immédiates ou sur des choses vraiment exclusives que t'as pas envie de montrer au grand public, ouais, pourquoi pas.
Ouais, c'est des trucs où tu as... Alors, il y a deux solutions. Soit c'est vraiment de la valeur ajoutée, soit c'est les gens qui t'aiment bien. Moi, tout mon modèle de financement, ou la majorité de mon modèle de financement, oui, le rendez-vous tech a de la valeur ajoutée, c'est sûr. le rendez-vous tech, j'espère en tout cas, je dis c'est sûr, j'espère qu'il vous amène de la distraction, vous passez un bon moment et vous apprenez des choses. Mais en réalité, la raison pour laquelle les gens me donnent de l'argent, c'est parce qu'ils m'aiment bien. Je crois. C'est parce qu'ils se disent « Ouais, il est cool, il fait un bon boulot, il est sympa, je veux l'aider. » Sinon, tu peux tout à fait avoir exactement la même information, avec un petit peu de pub en plus, mais tu peux survivre, sans donner de l'argent. Donc, une grosse motivation, c'est que les gens aiment bien. Donc, je pense qu'il y a un moyen de monétiser qui est encore un peu plus simple que Patreon, parce qu'en gros, c'est un Patreon sur Twitter, mais c'est encore un petit peu plus simple, sans doute. Et puis, il y a effectivement la valeur ajoutée qui peut venir, pas de l'information en elle-même, mais de l'analyse de l'information et ce genre de choses. Moi, je crois que ça peut... Ça ne va pas devenir tout le monde a son super follow, tu vois, n'importe qui a son super follow, mais pour certains, ça peut fonctionner.
Ouais, je pense, ouais.
Il y a d'autres choses que Twitter a annoncées, c'est par exemple un safety mode qui, en gros, ça bloque et ça mute pour vous les choses que Twitter considère comme potentiellement agressives ou toxiques. C'est pas plus mal, c'est parce que c'est vrai que bloquer et muter tous les trucs qui nous agressent, quand on est dans une situation compliquée ou dans une situation de harcèlement, ça peut être très difficile. Là, en gros, c'est un moyen de faire ça automatiquement et ça devrait arriver. Enfin, ils travaillent dessus. Donc, ça arrivera, on ne sait pas, dans un an ou dans quelques mois, mais ils travaillent dessus aussi.
Ouais, sinon, pour ceux qui veulent, si vous êtes... Il y a une application qui s'appelle Bodyguard, qui est en fait un peu le garde du corps de vos réseaux sociaux et qui, pareil, bloque automatiquement en attendant la fonctionnalité officielle, on va dire, ça peut vous dépanner.
Ouais, il y a effectivement plein de solutions annexes comme ça. Mais celle-là, ça serait intégré à Twitter. Et évidemment, ça va donner des faux positifs aussi. Hein. Il y a des gens qui vont être considérés comme agressifs et qui n'ont rien fait. Mais bon, c'est peut-être une meilleure solution que le fait d'avoir un free-for-all où tout le monde peut agresser tout le monde. Entre parenthèses, Instagram est aussi en train de faire un Clubhouse vidéo sur lequel il travaillait depuis longtemps et il travaille à la version audio. Donc, voilà. Quoi d'autre ? On a, des histoires gouvernementales un petit peu. On a le gouvernement qui voudrait baisser la TVA sur les smartphones reconditionnés. C'est vraiment intéressant ce sujet, c'est pas encore fait, mais c'est un sujet qui irait dans le sens de la baisse de la consommation de nouveaux appareils. Si les appareils reconditionnés sont encore moins chers, ça pourrait être assez utile. Le problème, c'est que ce genre d'opération, généralement, ne résulte pas à... Enfin, la grande question qui se pose, c'est est-ce que c'est les utilisateurs finaux qui vont en bénéficier de cette baisse de TVA ou est-ce que ça va aller dans la filière de vente du reconditionné et qui vont avoir des marges plus importantes ? C'est un petit peu le bémol qu'on peut trouver à cette idée.
À ton avis.
on avait eu une baisse de la TVA sur la restauration il y a quelques années. J'ai pas l'impression que les restos aient baissé. Bon, ça peut les aider à mieux vivre hein, aussi s'ils se prennent un peu plus de marge, mais j'ai pas l'impression que ça soit répercuté. Il faudrait avoir les données de l'INSEE sur ce sujet. Mais bon, la question se pose. Toujours dans le domaine du gouvernement, tu avais vu que Emmanuel Macron avait lancé un défi à McFly et Carlito. Il voulait une vidéo un clip humoristique pour encourager les gens à faire les gestes barrières. Il a lancé un défi à McFly et Carlito qui l'ont relevé et qui, du coup, ont fait ce clip qui a eu 10 millions, plus de 10 millions, ils doivent être à 15 millions maintenant, de vues. Et du coup, ils disaient « Ok, on accepte seulement si Macron accepte de faire un concours d'anecdotes sur notre chaîne, si on réussit. » Et le concours d'anecdotes, c'est un truc qu'ils font avec différentes personnes où ils racontent des anecdotes et on doit deviner laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et ils ont réussi et Macron a dit oui. Et donc, ils vont avoir le concours d'anecdotes dans quelques temps sur la chaîne de McFly et Carlito. Je ne sais pas. Enfin, évidemment, c'est une bonne chose que ça se passe comme ça. Il n'y a pas de plus de commentaires que ça à faire peut-être, mais c'est rigolo, j'ai trouvé ça marrant.
Non, c'est rigolo, oui, c'est rigolo, parce que bon, McFly et Carlito ont bien joué là sur ce coup, je pense que c'est bien. Après, après c'est toujours pareil, hein, dès que c'est un homme politique qui fait ça, tu te dis pourquoi il fait ça, et enfin tu vois, il y a toujours un intérêt, lui il fait ça comme... Ils pètent les scores en termes, ils touchent comme ça un public qu'ils n'avaient pas encore. Ouais, c'est une bonne opération de com. Après, ça vaut pas tous les commentaires que j'ai vus, tu vois, où tout le monde s'est énervé. Et puis voilà, mais.
Je pense qu'il y a vraiment des raisons de s'énerver dans les sujets politiques. Là, c'est un peu tout le monde est gagnant, quoi. Et oui, bien sûr, c'est aussi un coup de com'. Je suis sûr que quand ils ont dit « Ah, oh, ok, mais seulement si tu acceptes de venir faire un concours d'anecdotes », je suis sûr que Macron, il dit « Oh yes, trop fort, encore des millions de vues sur des jeunes auprès de qui je vais paraître sympathique, tu vois ».
Souvent, les gens se disent « C'est du temps perdu », tout ça. Mais en fait, vous voyez l'agenda présidentiel, tout ce qu'il fait, mais tous les présidents, hein, c'est entre manger la galette à l'EHPAD du coin, aller voir tel mec à tel endroit, les rendez-vous avec tel industriel et machin.
Ouais, tu veux dire, il y a des gens qui disent, oh, il a mieux à faire que d'aller faire le concours d'anecdote.
C'est ça, mais c'est un truc en plus. Et encore là, ça a de la visibilité, parce que des fois, les mecs, ils rendent des services, ils vont voir machin ou truc ou bidule à l'autre bout de la France, et ça sert à rien. Enfin, tu vois, ils perdent leur temps. Mais bon, après, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'on entretient les relations, on serre des mains, on dit bonjour, tout le monde est content.
Ouais.
Voilà, il y a beaucoup de ça, hein, dans le métier de président aussi.
Autre sujet politique, il y a des discussions sur le pass sanitaire. Je vous avoue que je n'ai pas très bien compris la question. Alors, il y a une question intéressante. En Europe, on est en train de mettre en place un pass sanitaire qui détaillerait les informations de santé des citoyens européens pour leur permettre le voyage plus facile. Et l'idée, c'est de faciliter la période de transition entre le moment où tout le monde sera vacciné et où tout le monde n'est pas vacciné pour qu'on puisse se déplacer sans mettre plus que nécessaire en danger la vie des gens. Le truc, c'est qu'en France en particulier, on a dit non à un pass vaccinal. On a dit que d'une part, la vaccination ne serait pas obligatoire, et d'autre part, qu'on n'a pas de pass vaccinal qui ferait qu'on a droit de faire certaines choses si on est vacciné et qu'on n'a pas le droit de les faire si on n'est pas vacciné. Ils disent pas que c'est un pass vaccinal dans ce... Comment il s'appelle le truc ? Je regarde sur
pass sanitaire. L'article.
Oui, mais je veux dire, en anglais, c'est le Green Health Pass ou Digital Green Pass. Le Digital Green Pass. Comment tu vas faire ce pass sans avoir l'information qui est-ce que tu es vacciné ou pas ? C'est l'information essentielle quand même. C'est ça qui compte au final. Donc, je ne sais pas très bien comment les deux vont être compatibles. Ils sont très, très flous sur tout ça. Mais je ne sais pas comment on peut faire un pass santé sans avoir l'information essentielle de la question du vaccin. Et même si tu as d'autres informations dans le pass, c'est quand même ça qui est l'essentiel. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que tu es vacciné ou pas ? Donc, je ne sais pas comment ça va être compatible avec les intentions françaises. Je ne sais pas.
Ouais, puis c'est un peu compliqué ça, parce qu'en plus, de quel droit, tu vois, ça entrave plein de choses, quoi, tu vois.
Bah, de quel droit ? Si, du droit que est-ce que tu vas filer potentiellement le virus à des gens que tu vas voir dans une réunion ou pas ? C'est ça la justification du truc. Ensuite, on peut vouloir le faire,
en fait,
on peut l'accepter ou pas. Là, on peut l'accepter ou pas, mais de quel droit ? C'est ça le droit, c'est très clair.
Oui, bien sûr. Mais
après, où ça s'arrête ? Oui,
quand est-ce que
question.
Ça s'arrête, quoi ? Enfin, tu vois, si on commence ça, après... Il faudra que tu prouves que, je sais pas, après tu devras tout justifier. Et il y a déjà beaucoup de transparence sur pas mal de choses. Et la santé, c'est un peu le dernier truc qui est encore un petit peu protégé. Et j'ai peur qu'après ça devienne, ça s'ouvre plus, quoi.
Moi, je suis très, très, très favorable à l'idée que il faut vacciner les gens, et pas de force, mais que... C'est même pas... Je suis favorable à l'idée réaliste qui est que si t'es vacciné, t'es plus dangereux ou t'es tellement moins dangereux que on peut réouvrir des portes, quoi. Et je pense que vraiment, c'est une simple question de logique et que c'est même important pour qu'on puisse avancer plus vite et plus rapidement dans cette sortie de crise de la pandémie. Maintenant, je suis complètement d'accord avec toi aussi, il y a un énorme point d'interrogation qui est où ça s'arrête. Et ça, c'est un gros, gros problème potentiel. Et il faudrait dire, tu vois, ce pass est pour cette pandémie et dans deux ans, quand tous ceux qui veulent être vaccinés auront pu être vaccinés, bah on arrête, on met tout ça à la poubelle, ok. Et peut-être qu'on peut le ressortir quand on n'est pas en situation, quand on revient en situation de crise, si ça revient. Mais on sait que c'est souvent pas comme ça que ça marche. Donc, j'ai une certaine préoccupation également, on va dire. Quoi d'autre ? Bon, vous savez quoi ? Très rapidement, je vais passer sur le fait qu'on a Apple qui informe enfin les consommateurs de la réparabilité des appareils. Sur les smartphones notamment, il y a quelques catégories d'appareils qui sont concernées chez Apple. Ils ont l'indice de réparabilité de leurs appareils. On est entre 4,5 et 7, je crois, sur 10. Je suis surpris d'ailleurs, moi je ne pensais pas qu'il y aurait des appareils qui avaient un indice de réparabilité à 7. Le MacBook, on est à 7 sur 10. Moi je pensais que c'était super pas réparable un MacBook.
Qui a fait qui a fait cette notation ? C'est Apple ?
Bah non, ça correspond au, ça correspond au barème du gouvernement.
D'accord, ok.
Donc... D'accord. Je sais pas. Bon, ensuite, il y a aussi des téléphones qui sont à 4,5. Mais 4,5, moi, j'aurais pensé qu'ils étaient tous à 2, tu vois. Les appareils Apple, c'est pas réparable. Mais en fait,
ils vont peut-être faire des efforts après.
Le truc, en fait, je pense que c'est réparable, mais ça coûte le prix du téléphone. C'est ça le problème. Tu vois, bien sûr, on peut vous réparer votre iPhone. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a ça qui est cassé. Pas de problème, la réparation, c'est un nouvel iPhone. Et vous le touchez, je peux le payer à prix réduit ? Non, vous le payez 100%. Voilà, hop, merci.
Puis après, moi, j'ai eu le cas, là, on a acheté un téléphone, un iPhone sur un site qui fait du reconditionné. Nickel, hein, le téléphone, nickel, mais l'écran, la moitié de l'écran ne marche pas, tu vois, parce qu'ils ont dû mettre un écran made in China, je ne sais pas quoi. Et Apple, je ne sais pas si c'est au niveau logiciel chez eux ou si c'est un problème de soudure ou j'en sais rien, mais ça ne passe pas, quoi, tu vois. Il y a aussi le matos Apple que tu dois mettre dans les smartphones.
Alors, il y a effectivement, chez Apple spécifiquement, ils ont depuis quelques temps des programmes de travail avec des réparateurs, mais qui du coup doivent être, pas labellisé, mais agréé Apple pour recevoir le matériel en question. C'est possible. Et c'est pour ça que je disais, ça vous coûte le prix du téléphone. Je plaisante, bien sûr, mais ça coûte quand même assez cher changer un écran parce que tout est collé, tout est soudé. Il faut des appareils particuliers. Ça coûte genre 200 € pour changer un écran. C'est possible, mais tu vas pas changer un écran à 200 € sur un téléphone qui a 3 ans. Ça, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est possible, mais c'est pas hyper intéressant, je pense. Mais oui, il faut que le réparateur ait le matériel Apple, ce qui est possible depuis pas longtemps, hein, 1 an et demi, 2 ans. Ils étaient beaucoup revenus en arrière là-dessus depuis quelques années. Donc il y a ça, et il y a aussi, je ne vais pas le mentionner plus que ça, il y a une fuite il y a quelques semaines de données de santé en France, et les laboratoires à l'origine de cette fuite vont contacter enfin les victimes. En fait, c'est une collection de suites de données de 27, je crois, laboratoires différents qui avaient fuité depuis 4 ans, 5 ans, qui a été packagé et mise à disposition sur le dark web. Il y a genre 500 000 personnes qui sont concernées, qui vont être contactées par les laboratoires. C'est une grosse, grosse suite de données. Comme tu le disais, la santé, c'est particulier.
Puis ensuite, par leur assurance, qui leur dira que non, ils ne vont pas les rembourser parce que comme ils ont des problèmes de santé...
Exactement. moi je pense surtout que ça va être l'occasion d'avoir, si ça arrive dans la presse, ça va faire des emails de phishing, genre « Vos données de santé ont fuité, nous vous contactons pour vous en informer, veuillez vous connecter à ce site fuitedodonnees.arnaque.fr.com ».
Comme Ledger, ouais.
Quoi d'autre ? On parlait de réalité virtuelle tout à l'heure. Sony a annoncé le PSVR 2. Bon, il ne s'appelle pas vraiment comme ça, mais en gros, ils disent qu'ils travaillent sur un casque de réalité virtuelle pour PlayStation 5. Vous vous souvenez peut-être que l'un des casques de réalité virtuelle les plus accessibles et, à vrai dire, les plus... la qualité de l'image n'était pas incroyable, mais le confort était vraiment important, et ça compte pour un casque de réalité virtuelle. Eh bien, ce casque aura un successeur sur PlayStation 5 et il sera beaucoup plus confortable. Enfin, on ne sait pas exactement, mais il sera... on imagine qu'il y aura moins de fils, des... on sait qu'il y aura des manettes plus mieux travaillées. Ce qui est important, c'est que ça signale à l'industrie que la réalité virtuelle n'est pas morte, ou en tout cas, elle n'était jamais morte, mais qu'elle n'est pas en stagnation, parce que Sony s'y intéresse toujours et ils ont clairement dit qu'ils allaient se relancer dans cette bataille. Donc ça donne un petit peu un espoir, une bouffée d'air frais à l'industrie de la réalité virtuelle, parce que la PlayStation 5 aura son casque de réalité virtuelle. Donc voilà, c'est un très bon signe pour cette industrie.
Ouais, bah, y a un public hein, pour ça, hein, tout ce qui est réalité virtuelle. C'est pas mainstream, parce que ça demande du matos, et puis c'est contraignant en termes de, on va dire, de s'habituer à ça, quoi. Mais moi, j'ai des potes, ils jouent qu'à ça, quoi. Dans des trucs en VR et tout ça, ça les éclate, quoi. L'immersion, c'est pas mal.
Il y a beaucoup de gens qui pensaient que la réalité virtuelle suivrait le chemin des télé 3D. C'est un petit peu l'exemple ultime de la technologie qui n'a rien donné, la télé 3D. Parce que c'est vrai qu'on nous a pris le chou avec pendant des années et au bout de 5 ans, ça avait disparu. Mais c'est pas du tout on fait souvent cette comparaison, mais c'est pas du tout le cas. La réalité virtuelle existe toujours, elle a pas explosé comme on le pensait ou comme on pouvait imaginer que ça arriverait depuis les quelques années, les, on va dire 5-10 ans, qu'elle est vraiment revenue sur le devant de la scène, mais elle a pas disparu non plus. Alors, il y a un petit ralentissement parce que il y a d'autres choses qui se passent dans le domaine du jeu vidéo avec les nouvelles consoles et le ray tracing, etc. Mais moi, je pense qu'il est tout à fait possible, en particulier depuis cette annonce de Sony, que les choses reviennent un petit peu et continuent à progresser lentement mais sûrement dans les années à venir. Et d'ailleurs, on a aussi les rumeurs du côté de Apple avec la réalité augmentée et réalité virtuelle, Microsoft qui travaille toujours dessus. Donc, c'est retourné un petit peu en sous-marin, je dirais, ou en moins grosse activité, mais ça peut revenir. J'ai un article que je voulais évoquer rapidement sur les causes de la fatigue quand on utilise beaucoup Zoom. Il y a un article sur une recherche hyper intéressante qui a été faite sur pourquoi on est hyper fatigué dans les Zoom calls plus que quand on est en réunion normale. Je mettrai le lien dans la newsletter, mais en gros, je vais vous résumer un petit peu le truc. Les contacts, le eye contact régulier est hyper fatigant. Quand on doit toujours regarder les gens dans les yeux, et à l'écran, on le fait beaucoup, c'est hyper fatigant. Quand on se voit soi-même en vidéo, c'est hyper fatigant. Quand on fait des vidéos chat, on est hyper immobile. On ne peut pas bouger vraiment. Même sur sa chaise, on bouge beaucoup moins que quand on est dans une réunion normale, et puis on ne peut pas se lever. Enfin, on peut, mais on le fait moins, se lever pour prendre un verre d'eau, etc. Et en vidéo, on est hyper... La charge cognitive est hyper importante. On est hyper concentré tout le temps, beaucoup plus que dans un call audio uniquement. Vous savez, en call audio, on peut se muter et jouer à un jeu vidéo à côté. Bah, en vidéo, c'est plus difficile, c'est pas impossible. D'ailleurs, je suis en train de jouer à Overwatch depuis une heure, vous en êtes pas aperçu. Non, je déconne. Mais c'est beaucoup plus difficile de rester concentré longtemps. Et donc, en gros, ce qu'on en retient, c'est que c'est pas une légende. Les Zoom calls, c'est pas comme les réunions, c'est beaucoup plus fatigant. Donc, prenez-le en compte dans votre organisation quand vous vous plaignez tout le temps que vous avez trop de Zoom calls. C'est vraiment plus fatigant. Passez en audio seulement, par exemple, et
arrêtez vous-même. Moi, je m'en suis rendu compte.
Ouais,
vas-y. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire mes lives Twitch. Tu vois, c'était pareil en fait. Au début, j'étais épuisé, quoi, parce que pareil, la vidéo, parler, suivre le chat et tout. C'était crevant. Bon, après, ça allait mieux, tu vois, tu t'habitues. Mais donc, je comprends le côté Zoom où tu fais attention à toi. Et puis, parce qu'il y a le côté, qu'est-ce que mes collègues vont penser si d'un coup, je me mets le doigt dans le nez sans faire exprès. tout le monde est aux aguets, en alerte, tu vois. Faut pas bouger, machin. Mais c'est vrai que c'est épuisant. Bon, arrêtez de mettre votre webcam. Vous dites que vous n'avez pas de webcam ou qu'elle est en panne.
Ouais.
Et c'est bon.
Exactement. Bah non, ma webcam est en panne. Et dernier sujet que je voulais évoquer, est-ce que tu sais quel est le point commun entre Hitler et Amazon ?
Oh putain.
Non, ok. En fait, c'est une question piège. Amazon a fait une nouvelle illustration pour son app, l'app Amazon.
Oui, j'ai vu ça, ouais.
Avec le sourire, et ils ont mis un petit ruban de fermeture de paquet, c'est un petit scotch, sauf qu'il était en zigzag au bout, et ça ressemblait vachement à la moustache de Hitler avec un sourire.
Ouais.
Et du coup, ils ont dû changer ça. Ils l'ont transformé en fait un scotch qui n'était pas déchiré avec un petit zigzag, oui. Quoi, qui est juste déchiré et un peu plié. Et comme ça, tout à coup, ça ne ressemble plus du tout à la moustache de Hitler. Donc, bien joué Amazon. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc que tu peux pas du tout. Enfin, tu vois pas quand tu y penses pas, mais quand on te le dit, tu vois plus que ça, quoi. C'est la moustache de Hitler.
Bah, surtout que c'est leur scotch qui est comme ça. En plus, leur scotch est vraiment comme ça, quoi, sur les colis. Donc, ouais. Ils n'ont pas dû penser à mal. Mais c'est vrai que les détournements avec Hitler, ça devait être marrant.
Exactement, bon. Exactement. Bon, au moins, ils ont réagi vite. Hein. C'est genre, oula, vite, 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 on change l'icône.
Ouais, mais globalement, moi, je la trouve pas très jolie, cette icône. Tu vois, j'aurais préféré autre chose où l'ancienne était très bien, mais bon.
Merci d'illustrer parfaitement la tendance universelle de l'Internet qui est que c'était mieux avant ou alors j'aime pas.
Eh oui, ouais.
Tout à fait.
J'aime pas, non, j'aime pas.
On comprend bien pourquoi Internet est aujourd'hui un petit peu pire que ça n'était avant. Moi, je reviens à ma théorie du début de l'émission. Depuis que t'es le chef de l'Internet, les choses se passent pas si bien. Hein.
J'ai un bon bouquin à te conseiller si tu veux.
Est-ce que tu vas me parler de Factfulness ?
C'est ça.
Est-ce que tu l'as lu alors, Factfulness ?
Je l'ai commencé, j'en ai lu la moitié, mais je n'ai pas fini encore. J'ai
d'accord.
Pas
le temps, est-ce que tu as été un petit peu surpris quand même d'apprendre certaines choses ?
Ouais. Bah, toutes les stats qui sortent au début, etc. C'est vrai que. Bon, j'en avais déjà entendu parler, hein, mais c'est vrai que quand il fait le test au début, est-ce que vous pensez ci ou ça ? Puis après, tu as les solutions. Et c'est vrai
allez,
que.
Ouais. Les réponses voilà. Étaient toujours surpris. Ouais, bah écoutez, ça me c'est bien gentil de me donner l'occasion de reparler de Factfulness. C'est mon jeu en fait. C'est il peut y avoir un drinking game. Il y a peut-être pas de NFT pour le rendez-vous tech, mais il y a un drinking game pour toutes les émissions que je fais. À chaque fois que je parle de Factfulness, vous pouvez boire un coup. Vous serez bourré avant la fin de la journée. Bon, bah écoute, Corben, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'était extrêmement sympathique. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur l'Internet dont tu es le chef, dis-moi.
Eh bien, tu peux me retrouver sur le blog corben.info, sur Twitch, hein, sur la chaîne CorbenFR et puis sur Twitter, Corben.
Et sur Twitch, tu fais tous les matins maintenant, c'est ça ?
Alors, bah en ce moment, c'est un peu compliqué. Avant, je faisais tous les matins. Là, maintenant, c'est plutôt le lundi et le jeudi et après quand je peux. Et après, ça va revenir à la normale, mais je suis en mode poste de parquet flottant, travaux dans la maison. J'ai pas le temps de tout faire. Donc, je me concentre. Voilà, c'est un peu plus réduit en ce moment.
D'accord, très bien. Bon, bah, le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notepatrick.com pour avoir absolument tout ce que je fais. Vous avez des liens vers toutes les émissions que je fais, y compris Super Laser Punch sur WandaVision qui arrive à son terme. Donc, vous pouvez aller vous abonner à Super Laser Punch, mais aussi au rendez-vous jeu où on parle de toute l'actu du jeu vidéo. C'est sur notepatrick.com que vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'évoquais tout à l'heure, où je mets le résultat de toute ma veille, les articles les plus intéressants. Et vous pouvez aussi trouver le lien vers le Patreon, patreon.com/rdvtech, pour soutenir le rendez-vous tech. C'est magique, c'est comme ça que ça se passe. Et depuis cette page-là, patreon.com/rdvtech, vous pouvez décider combien vous donnez, combien de temps vous restez abonné, et puis choisir votre niveau de soutien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un truc qui est extrêmement important pour l'émission, et surtout, j'espère que vous en tirez une certaine valeur, un certain plaisir de savoir que vous soutenez l'émission et que vous pouvez contribuer à son existence, en plus du fait que, bah, concrètement, oui, vous contribuez à son existence. Donc, un grand, grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et ça prend vraiment 2 minutes pour s'abonner. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech. Bien sûr, dans 2 jours, si vous écoutez aussi le Rendez-vous Jeu. Et tous les lundis, si vous écoutez Super Laser Punch. Et en plus de ça, j'ai sorti un épisode de Positron il n'y a pas longtemps. Donc, vous avez du Patrick dans les oreilles à toute heure du jour ou de la journée. Et tout ça, c'est sur notepatrick.com pour tous les liens. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.